Vous y êtes pour une heure de sous-marin, tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure, vous entendrez en fin de sous-marin la chronique écho de Rémi, enregistrée ce soir. En fin de sous-marin, vous retrouverez également l'agenda de votre soirée et bien sûr la traditionnelle bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti.
Les cafés-concerts qui abritent les groupes locaux doivent faire face à la grogne des voisins qui se plaignent du bruit.
Pour le patron, le décret anti-bruit, c'est 120 000 francs de travaux d'insonorisation. Et s'il a payé, c'est pour donner leur chance aux artistes débutants.
Tous les nouveaux et tout, ils n'ont aucune chance d'émerger. Ça veut dire que tout ce qu'on s'appelle la richesse musicale française, aussi bien en musique qu'en théâtre, qu'en débat, que toutes ces choses-là, eh ben, ça s'arrêtera, c'est fini.
Le décret anti-bruit, bon, il a été pris à la demande des Français et des Françaises qui sont aujourd'hui extrêmement sensibles au problème du bruit et qui ont le droit aussi au respect donc, du sommeil, au respect du silence lorsqu'ils souhaitent donc se reposer.
Extrait d'un reportage de France 3, c'était il y a 14 ans. Et oui, l'an 2000, c'était déjà il y a 14 ans, ça pique. Bonjour Nicolas Crusson.
Bonjour.
Vous êtes chargé des événements au collectif Culture Barbare, créé en 99 et fondé en association en 2004. 250 adhérents aujourd'hui, si mes chiffres sont bons.
350,
ils étaient donc pas bons. Vous êtes là un peu la fédération nationale de ce que vous appelez les cafés culture. Alors c'est quoi la différence entre un café culture et un café concert?
Il n'y en a pas, il y a juste que la notion de café-concert, elle est réduite à la musique et les lieux adhérents à Culture Barbare, ils sont dans le spectacle vivant, mais ils sont aussi dans les expositions de peinture, de photographie. Donc c'est l'idée d'élargir la notion de culture, c'est tout.
Bonjour Vincent Salva et Jocelyn Duboîtier, comme ça qu'on prononce.
C'est ça.
Vous êtes tous les deux du Terroc Coco, le café-concert qui est installé de l'autre côté de la Maine par rapport à nous, c'est-à-dire dans la Doutre.
Rive droite,
ouais. Rive droite, on dit, d'accord. Okay. Et bonjour Jean-Yves Carornou.
Bonjour.
Du Joker's Pub, le dernier café-concert arrivé sur Angers.
Oui, il est tout neuf encore. Il est encore sous garantie.
Merci à vous quatre.
T'as bien du bol.
D'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre donc ce reportage qui date un petit peu. Est-ce que c'est encore d'actualité ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que ça vous parle?
Ben, en fait, comme tu dis, ouais, c'est de 2000, les extraits. Bon, bah, aujourd'hui, on prend les conséquences de ces décrets de 2000.
Les conséquences en termes de bruit, c'est ça?
En termes de bruit, de répression, de solutions, de politique, de... voilà, en 10 ans, 10-15 ans, il y a eu de tout et n'importe quoi, en fait. Autant sur les ouvertures et les fermetures de bars, et autant sur les plaintes et les complaintes des citadins en centre-ville.
Parce que qu'est-ce qu'ils disent des décrets, en fait?
Il dit... ouais, on peut reprendre la phrase, je pense que au vocabulaire qu'a utilisé un des personnages, ça devait être un ministériel ou un député ou quelque chose comme ça. Oui, les gens ont droit à la tranquillité, effectivement, mais... C'est quoi une tranquillité?
Ça s'applique comment?
Ouais, ça s'applique comment? C'est quoi? Donc après, ce sont des mesures. Des mesures qui sont faites par des experts, acousticiens. Il y a une subjectivité dedans. Il y a une subjectivité déjà de faire un dépôt de plainte. Un jour, on peut trouver le son acceptable et le lendemain, parce qu'au boulot, ça aurait été mauvais ou juste, je métaphore avec cette goutte d'eau dans le lavabo. Un jour, tu l'entends pas, et le lendemain, elle t'empêche de dormir. Il y a cette subjectivité-là qui génère de la plainte.
Ça se mesure pas, en fait, cette mise en sonore. Ou est-ce qu'il y a des termes, quand même, des chiffres, des normes à...
Oui, il y a des chiffres.
Oui. Oh, il y a des chiffres, mais c'est pareil. Moi, j'étais assigné au tribunal. L'expert mandaté par le juge de référé n'utilise pas les mêmes chiffres que l'expert mandaté par la mairie, qui n'utilise pas les mêmes chiffres que l'expert mandaté pour faire mon étude acoustique qui est obligatoire dans l'ouverture d'un lieu. Au bout d'un moment, on ne sait plus qui a raison, qui fait quoi et d'où est-ce que ça vient. Donc il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un peu tout et n'importe quoi.
Jean-Yves Kerrano, quand vous avez ouvert le Joker's Pub, vous avez fait votre salle donc, en bas, vous avez tout mis aux normes.
Oui, en théorie, elle est complètement aux normes. D'ailleurs, l'étude acoustique en témoigne. Alors, je voudrais revenir quand même sur ce que disait Vincent et sur la subjectivité. Moi, je me suis confronté à un gros problème avec la voisine qui était juste au-dessus. C'est-à-dire que malgré tout ce qui avait été fait, eh ben, on était au-dessus. Alors, on va parler chiffres un petit peu des 3 dB résiduels
qui doivent être
acceptables
à l'extérieur.
Le problème, c'est que dans les trois quarts des logements, le nombre de dB qui existe dans les pièces dites normales est entre 20 et 25 dB. La voisine, chez elle, c'est 13 dB. Donc, vous voyez, les 3 dB résiduels, c'est très, très compliqué à y arriver. Donc, il y a carrément 10 dB que nous, on n'a pas le droit d'avoir. Parce qu'il y a une voisine qui, elle, a aménagé son logement de façon à ne rien entendre de l'extérieur.
Et puis cette mise aux normes, elle doit coûter cher, j'imagine.
Très très cher. Je vous donnerai pas de chiffre, mais très très cher.
Est-ce que ça, Nicolas Crusson, ce décret, il a engendré des fermetures de cafés-concerts qui pouvaient pas faire face aux frais de mise aux normes?
Alors, j'ai pas les chiffres. Par contre, oui, il y a des cafés qui ferment tous les jours, hein, par rapport à ça. Et c'est des lieux. Moi, je voulais revenir par rapport à ça. En effet, on a une normalisation via la réglementation. C'est-à-dire que les gens en ville aujourd'hui, les citadins, ils veulent les avantages de la ville sans les inconvénients. Et si on veut de la tranquillité, la campagne est là. Mais voilà. Et du coup, l'enjeu, c'est pas de dire dégager, c'est juste de dire à un moment donné. Comment on cohabite pour vivre ensemble, sachant que ben voilà, il n'y a pas tout ce qu'on, il y a des avantages et des inconvénients en campagne comme en ville, et que du coup, plutôt que de parler de répression, d'application bête et méchante, on va dire, de la norme, d'émergence, de la plainte du voisin avec fermeture administrative, ce qu'on préconise au niveau de la fédération, ben c'est évidemment la discussion, et puis déjà se mettre autour de la table, parce que souvent, bien souvent, les patrons de bar, ils peuvent même pas avoir échangé avec ce voisin. C'est pas toujours le cas, il y en a qui refusent. Et du coup, c'est juste un papier qui dit bon ben voilà, vous fermez. Donc en effet, c'est une problématique nationale. Hein. C'est pas propre à Angers, mais Angers est confronté comme au national à cette problématique-là.
Et Angers, les bars doivent fermer à 2h du matin. Est-ce que c'est trop tôt pour un café-concert? Est-ce que ça, vous le regrettez, vous, en tant que propriétaire, parfois quand un concert est bien parti?
Je pense que Vincent et moi, on va être d'accord. Une fois que la soirée est bien partie. 2h du matin, ça fait vraiment très tôt, parce que on va dire que un concert qui commence à 22h se finit à 23h, 23h30. Le temps que les gens se mettent autour d'un verre pour discuter, il est 1h, et déjà à 1h, nous, patrons de bar, on commence à penser à la fermeture. Parce qu'il faut absolument qu'il n'y ait plus personne à 2h du matin, et que les gens fassent le moins de bruit possible. Donc effectivement, plus ça sera tard, mieux ça sera.
Et une autre?
Oui, après, oui.
Salva.
Moi, pour le coup, j'ai vu aussi l'expérience nantaise par rapport à ça, avec les associations de débit de boissons, licence d'entrepreneur du spectacle. C'est-à-dire, il y a aussi, on est le cul entre 8 chaises à peu près sur les discussions autour des cafés-concerts, parce qu'on fait du culturel, mais pas que, mais en même temps, de l'amateur, oui, mais on a un débit de boisson, on vend de l'alcool, donc les jeunes, donc le bruit, donc tout ça. Ça fait un espèce de pot pourri, donc c'est une activité à part entière. Quand c'est bien géré, et surtout quand la mairie joue le jeu, ça peut bien se passer, mais comme disait Nico, il faut de la discussion, il faut de l'échange, il faut réfléchir aux choses, il faut... On met tout le monde à 4 heures et on laisse faire, ça va être un bordel sans nom. Après, il faut cadrer un minimum, et puis il faut anticiper les problèmes. Donc pour ça, il faut prendre tous les acteurs de la nuit et en discuter. C'est pas chacun de son côté, c'est pas de la répression, c'est pas moi je veux ça, moi je veux ci, moi je veux ça. Oui, fermer à 4 heures, bah, c'est pas une question simplement, faut pas se voler la face, c'est pas qu'une question de oui, pour les gens, ils commencent la discussion. Non, ça fera 2 heures de business en plus, ça fera 2 heures de rentrée d'argent. Bon, voilà, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire, comment ça peut être aménagé, est-ce que c'est aménageable. Voilà, si. Il y a plein de questions. D'abord, il faut se mettre autour de table et réfléchir sur ces problèmes de bruit, de son, comment ça peut être résolvable. Mais ce sont des problèmes irrésolvables. Ils sont résolvables par des petits points, par des petites entrées, par des petits arrangements. Mais il y aura toujours du bruit dans les centres-villes. Hein. Tant que les bagnoles électriques sont pas mises en place, on aura toujours les bruits de pots d'échappement, les machins. Il y aura toujours les mecs qui gueuleront plus fort que la moyenne. Bon, voilà.
Il y a une autre problématique que vous avez évoquée très rapidement, Vincent Salva, dans votre énumération, c'est la question des pratiques amateurs dans les cafés-concerts. Alors, pour clarifier un peu la chose, peut-être Nicolas Crusson, vous pouvez faire un rapide topo, c'est-à-dire que dans les cafés-concerts, en fait, on ne peut pas rémunérer les musiciens amateurs.
Ouais, je vais revenir là-dessus. Avant, je voulais quand même repositionner la question des cafés et des cafés-concerts et de leur place dans la chaîne de diffusion. Parce qu'en fait...
évidemment un maillon indispensable les groupes qui se lancent.
Et que longtemps, les groupes, un groupe professionnel, il a d'abord été amateur. Ça, quelle que soit la question de la réglementation et de la loi, il part de rien, il génère un public, donc ça génère une économie, donc ça intéresse des programmateurs, des lieux de diffusion, des festivals. Mais du coup, la question qui était posée il y a 14 ans dans les petits extraits que vous avez donnés, elle est hyper intéressante parce qu'en effet, c'est les conséquences. Aujourd'hui, on a moins cette articulation entre la pratique, entre les petits lieux et puis les salles, puisqu'on a en parallèle développé un réseau professionnel de salles et c'est très bien. De la même manière, les festivals ont été des outils pour la diffusion en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, avec un développement assez formidable sur les 20 dernières années. Et aujourd'hui, sur la question des pratiques amateurs, alors outre le fait qu'il n'y a pas un cadre vraiment très clair, parce que ça s'appuie sur un décret qui date de 1953, qui a été imaginé à partir des compagnies de théâtre, qui est donc et qui fonctionne sur une logique de cadre non lucratif, il est de fait inadapté à la question des cafés-concerts qui sont dans un cadre lucratif, voilà, et que du coup se pose la question de la présomption de salariat, puisque l'exception culturelle française fait que nous rappelle que tout artiste sur scène est censé être rémunéré. Voilà.
Merci Nicolas Crusson d'avoir reposé les bases. En parlant de cette rémunération des artistes, il y a une expérimentation qui s'est faite dans la région des Pays de la Loire pour aider à l'emploi des artistes. Est-ce que chacun des cafés-concerts présents a bénéficié de cette expérimentation qui aide en fait à payer les cachets des artistes?
Moi je l'expérimente ce soir, j'expérimente samedi, j'ai expérimenté la semaine dernière. Qu'est-ce que
ça change?
Ça force à la réflexion. C'est encore pour nos lieux, même Jean-Yves, sur ses calculs mathématiques financiers, ça va être à peu près les mêmes que moi. C'est-à-dire que c'est toujours limite pour nous, mais au moins ça force à la déclaration. Ça force à faire avancer tout le monde dans le même sens. Donc des fois, il faut savoir mettre, comme on dit, la main à la poche aussi, et la mettre légalement dans un cadre. C'est vrai que le problème, on est sur ce dispositif-là, sur la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on va payer au SMIC chaque personne. Les cotisations salariales, en partie, vont être remboursées par le dispositif, donc à le mois d'après, on va dire, souvent. Le temps de faire les démarches à tout, machin, donc c'est encore un dispositif, on est pilote, maintenant ça va faire combien de temps? 3 ans qu'on est pilote?
Ouais, c'est la troisième année.
Ouais, troisième année, donc au bout de 3 ans, je sais plus si on peut dire pilote ou pas, essayeur, on y tient en tout cas, à ce dispositif. Après, ça n'a rien à voir avec les pratiques amateurs. Je tiens à préciser que dans les pratiques amateurs, il y a les amateurs, mais un amateur, c'est quelqu'un qui peut faire... tous les métiers du monde, sauf musicien, mais qui fait quand même de la musique et qui a quand même envie de découvrir la scène, qui a quand même envie de faire plaisir aux copains et de se faire plaisir en se disant « Tiens, on va jouer devant des gens dans un bar. » Il y a le droit de faire ça. Il y a le droit. Le gars, il a le droit de s'exprimer. La création artistique, elle démarre par là. C'est le fait de pouvoir s'exprimer. Et tout le monde est obligé de faire ça dans son salon, alors en plus avec les problématiques de voisinage, si tu fais ça dans ton salon. Mais il y a le côté amusement, il y a le côté aussi pour le public qui vient au bar, de découverte, de l'impromptu, de descendre, machin, c'est bon, c'est pas bon. On n'est même pas là pour juger la qualité d'un artiste, on est là pour le faire se diffuser. Alors des fois, nous, c'est vrai qu'on a une programmation où là, on va mettre le cachet à tout le monde, et puis d'autres, bah, des fois, les gars qui viennent, et puis bon, bah, on leur offre une opportunité de juste faire de la guitare, juste faire de la batterie, juste dire deux, trois mots dans un micro, se lâcher, transpirer un bon coup. C'est un peu une séance de sport, quoi. Ça peut être ça. Ça peut être une séance de peinture avec... C'est juste ça, et c'est normal de faire ça. Voilà, c'est ça de l'amateur. C'est un amateur.
Évidemment, vous ne représentez pas ici tous les cafés-concerts d'Angers, et donc on est allé en voir un autre en bonus. On vous propose d'écouter Bertrand du Bar du Quai, dont le café est à un emplacement un petit peu particulier. Aujourd'hui, des laveurs de carreaux nettoient les vitres du quai. Le quai, c'est cette énorme structure en verre qui fait face au château de l'autre côté de la Maine. À l'intérieur, on retrouve le Centre National de Danse Contemporaine, le Nouveau Théâtre d'Angers, l'établissement public de coopération culturelle Le Quai et le Bar du Quai. Ancien Bar d'Uf, rebaptisé pour mieux identifier le lieu.
Pourquoi on a décidé de porter des masques? D'où elle sort cette idée?
On a voté.
Je n'ai pas voté, moi, je suis désolée.
Vous n'étiez pas là quand on a voté.
Et alors je ne suis pas là et donc je ne vote pas?
C'est-à-dire, c'est un peu le principe.
Super, bonjour la démocratie.
Il est 16h et le collectif Platoc répète en vue de la lecture du lendemain.
Je ne veux plus, déjà ton exemple, il est pourri.
Mais c'est quoi l'idée maintenant? Tu proposes quoi?
Bertrand, le patron des lieux depuis 2011. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Alors ici, c'est on dit café-concert, mais finalement, il y a aussi des lectures, il y a des soirées slam, il y a des soirées danse, il y a des expos. Est-ce qu'on ne peut pas parler de café-culture plutôt?
Alors oui, on peut prendre ce terme-là, qui est déjà un terme qui est plus qu'utilisé par le collectif Culture Barbare. Et oui, donc il y a des concerts, c'est vrai que c'est un peu le mainstream, on va dire, du bar. Mais comme tu dis, voilà, on a plein d'autres activités, on a du slam, on a des soirées dégustation autour du vin, il y a des lectures. Alors après, les choses sont pas toutes organisées par le bar lui-même. Il y a une partie qu'on organise nous-mêmes, et puis une autre partie qui sont proposées donc par les structures du quai, que sont le PCC, le NTA, qui eux viennent faire des propositions au sein du bar. Donc il y a vraiment différents organisateurs et programmateurs dans le même lieu.
Et oui, justement, donc le bar du quai est dans le quai, comme tu le disais tout à l'heure. Et il y a autour de ça donc le NTA, le PCC et le CNDC. Est-ce que la programmation de ces trois structures, elle influe sur la programmation du bar?
On a vraiment une indépendance sur les propositions. Moi, ce que j'impulse dans le bar du quai, c'est de proposer donc des concerts avec donc là, bon, parce qu'il y avait un soutien de la ville là-dessus. Enfin, il y en a encore un pour l'instant. On verra à l'avenir. Mais pour pouvoir faire jouer des groupes dits émergents qui sont pas encore professionnels. Locaux. Donc ça, c'est vraiment une première impulsion qui était politique à la base. Et puis moi, l'autre impulsion, on va dire, en tout cas d'action culturelle que j'ai mis là-dedans, ça a été d'intégrer pour chacune des soirées en fait un acteur local, que ce soit justement un média comme Radio Campus Angers. Il y a déjà eu des soirées vraiment en partenariat direct avec Radio Campus Angers, que ce soit avec voilà des organisateurs de soirées, des labels. Voilà, en fait, chaque soirée, elle est toujours rattachée à un acteur de la vie musicale et culturelle angevine. Voilà, tout ça pour dire que oui, pas forcément en fait, le point de départ de la programmation du bar n'est pas de forcément faire un écho aux structures du quai, même si des fois des occasions se présentent, et si elles se présentent, évidemment on va essayer de s'en saisir, c'est pas inintéressant, mais c'est pas le but premier, quoi, on va dire. Voilà.
Ça veut rien dire, je comprends même pas cette phrase. L'époque nous sort par les yeux. Enfin, évidemment, oui, si, je la comprends, mais franchement...
Et en termes de programmation encore, est-ce qu'il y a une différence avec les autres cafés-concerts qui existent à Angers? Est-ce que chacun a une ligne, en fait, dans sa programmation? Est-ce que vous vous prêtez les groupes, entre guillemets?
Se prêter les groupes, c'est peut-être pas le terme. En tout cas, il y a des groupes qui jouent... On est sur le même va dire réseau de groupes, donc forcément il arrive que des groupes qui jouent chez moi jouent au Terre au Coco, inversement, ou au Jokers. Ça dépend aussi, moi j'essaie en tout cas d'avoir des groupes qui ont un petit peu d'actualité aussi, s'ils ont une sortie d'album, si voilà, il y a quelque chose d'un peu de voilà, une actualité, quelque chose de nouveau chez eux pour pouvoir proposer une soirée avec eux. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est fait en partenariat avec des acteurs. Donc, la programmation se fait aussi avec les acteurs. Donc, c'est eux aussi qui vont proposer les groupes qui leur sembleront pertinents par rapport à leur soirée. Donc, pour le coup, oui, enfin, j'ai pas de ligne vraiment directrice, hormis celle donc d'agir avec d'autres gens, mais enfin voilà, on essaie justement, moi j'essaie de garder une programmation la plus éclectique possible, quoi, que ce soit de l'électro, du rock. Là on va avoir une soirée Balkan Beat le 22 mai prochain. Voilà, j'ai pas de ligne vraiment sur un axe rock, pop ou voilà.
En termes de public, est-ce que le fait d'être dans le forum du Quai, ça change quelque chose? Est-ce qu'on récupère évidemment les sorties spectacles? C'est pas forcément public de café-concert.
Oui, ça change beaucoup de choses. Oui. Enfin, il y a l'avantage, c'est que oui, on est dans un grand lieu, donc on a de la place. On peut entre guillemets être peut-être un petit peu plus le bazar, je dis bien entre guillemets, que dans un café-concert un peu plus petit où on est un peu plus à l'étroit. Donc et oui, comme tu dis, on récupère une partie du public des salles du Quai. Alors après, des fois ça colle pas du tout quand on a un concert de punk et que ça joue derrière un opéra, forcément le public de l'opéra va pas forcément rester, mais voilà, des fois on récupère voilà, sur des musiques un peu plus large public, on va dire, voilà, on arrive à récupérer une partie publique du Quai. Ça, c'est un premier point. Ensuite, l'autre point, et aussi dans l'autre sens, c'est que comme c'est un gros lieu culturel, il y a plein de gens, on va dire, qui entre guillemets n'osent pas venir jusque là, n'identifient pas le lieu comme ouvert ou comme voilà, avec des soirées gratuites, tout ça. Donc c'est vrai que ça a été un travail assez dur pour moi pendant 2-3 ans, on va dire, de au moins que des gens puissent identifier qu'il y a quelque chose là-dedans qui puisse être voilà. Plus sur leur créneau, on va dire esprit café-concert.
Que ce soit clair, il n'y a pas de budget pour le café. Donc moi, j'achète le premier prix. Si vous voulez un meilleur café, ce serait bien que chacun...
Non, mais là, ça va, c'est bien. C'est bien.
Là, c'est très étonnant.
Ah, très bon café.
Pardon, mais est-ce que c'est une réunion?
Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers et on cause de café-concert en compagnie du Joker's Pub, du T-Rock Coco et du collectif Culture Barbare. Nicolas Crusson, vous vouliez revenir sur ce dont on parlait en fait avant le reportage au Bar du Quai concernant ce protocole et l'expérimentation.
Oui, c'est-à-dire que en fait, pour bien rappeler le contexte, avant 2008, il n'y avait aucune discussion au niveau national sur la question des cafés-concerts. Ils n'étaient pas dans les tours de table. En 2008, le pôle régional musique actuelle et le collectif Culture Barbare ont organisé les premières rencontres nationales Café Culture. Et pendant 2 jours de débat, en amont des bis à Nantes, et ça a généré énormément de discussions entre les syndicats, le secteur professionnel, les patrons de bars, les représentants des collectivités. Et de ces débats ont émergé une plateforme nationale, la plateforme nationale des cafés culture, qui réunit le ministère de la Culture, des collectivités locales, des réseaux régionaux d'acteurs musique actuelle, des syndicats. Et en fait, le dispositif dont on parlait tout à l'heure en région, il émane un petit peu de... La région Pays de la Loire a été précurseur, en fait, en disant, bon, comme il est un peu... mettre en place un dispositif au national, c'est forcément un peu plus long. Nous, on va déjà l'expérimenter en Pays de la Loire. Et on en est à la troisième année. En 2013, il y a eu quand même, je crois, 1100 cachets,
1077 pris en charge.
Ouais, 1100 cachets pris en charge, ça représente 500 concerts. Vous voyez, c'est pas rien. Donc, c'est une vraie avancée sur cette question de la prise en compte, surtout dans un contexte où l'emploi est de plus en plus précaire. Je veux dire, c'est un vrai appui pour l'emploi artistique et ça, c'est bien pour les musiciens. C'est hyper important. Après, en effet, la question des pratiques amateurs, et c'est aussi ce qui est intéressant à travers cette plateforme nationale des cafés culture, c'est qu'elle a instauré une petite marge de manœuvre, à savoir un protocole signé par le SNAM CGT et le collectif Culture Barbare sur le fait de pouvoir, dans un cadre donné, diffuser des amateurs dans un bar. Et ça c'est hyper important. Alors évidemment, il y a un cadre avec des critères, à savoir sur la logique de concurrence, hein, à savoir la question d'absence de prix d'entrée, pas de billetterie, une communication non professionnelle, et puis des musiciens qui seraient limités dont la provenance serait limitée au département limitrophe ou du département, du lieu où ça se passe. Voilà. Et du coup, ça donne une vraie marge de manœuvre pour les lieux, parce qu'en cas de contrôle, à un moment donné, ce protocole, il peut être utile. Voilà. Alors après, on n'a pas résolu pour autant la question du statut de l'amateur, de la reconnaissance du statut de l'amateur, mais on avance. Voilà.
On va peut-être se recentrer un petit peu sur le territoire angevin. Comment ça se passe, l'entente entre les différents cafés-concerts? On entendait Bertrand qui disait on ne se pique pas les groupes, mais on s'arrange pour tourner un petit peu. Comment ça se passe, la programmation?
On ne se pique pas les groupes, mais on se pique le public.
C'est ça.
Non. Justement, on était en pleine discussion cet après-midi avec Jean-Yves et Jocelyn. Et ça va, c'est... On sait qu'on existe tous, et on sait que le fait de travailler tous ensemble, et finalement j'y crois, si on y travaille bien tous ensemble, à générer vraiment une émulsion et une envie aux gens de se déplacer dans nos lieux pour accéder à ces concerts live. Voilà, moi c'est, comme je disais cet après-midi, je crois plus au fait du fédéralisme que chacun dans son côté, quoi.
Jean-Yves Kerrenou, vous qui êtes le dernier à réunir.
La même chose, on a eu une discussion cet après-midi avec Vincent et Jocelyn, et on est arrivé à se dire que le fait d'être plusieurs, ça serait sûrement beaucoup plus intéressant, que ce soit au niveau communication, envie, et surtout que le public est vraiment une entité, savent à quoi correspond un café-concert. C'est-à-dire qu'à deux ou trois, ils savent que, en fait, il y a des lieux qui existent. Et si chacun fait ça dans son coin, je parle de moi surtout parce que on vient de commencer, donc forcément la communication, elle est pas toujours au top par rapport au Terre au Coco qui, lui, Vincent fait ça depuis plus de 3 ans. Et donc la communication et l'envie de venir dans ces cafés-concerts ne se verra que si les gens ont une chose bien précise devant eux et non pas des coups comme ça, au coup par coup, à droite, à gauche. Et je pense que c'est une bonne idée. On est en train de construire cette histoire. Je pense que ça devrait, s'il ne me tape pas dessus avant, ça devrait bien se passer.
Et comment ça se passe, la relation avec la salle de musiques actuelles, le Shabada? Est-ce que vous êtes en partenariat avec le Shabada? Est-ce que vous discutez? Ou alors c'est vraiment deux entités complètement différentes qui ne discutent pas du tout ensemble? Comment ça se passe?
Ah, on discute ensemble, on n'est pas fâchés du tout, mais pour parler de partenariat, il faut... Non, c'est aller beaucoup trop loin. Moi, pour ma part, je sais qu'on a fait deux manifestations avec eux, parce qu'en fait, ils avaient des groupes qui... parce que le Shabada, quand ça ouvre, ça coûte très cher. Et ils avaient donc des groupes qui étaient trop petits pour ouvrir la petite salle et pas assez gros pour ouvrir la grosse. Donc forcément, comme ils voulaient les faire passer, il fallait trouver un lieu. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis d'accord ces deux fois-là.
Mais c'est des one-shots par-ci, voilà, par-là. Voilà.
Exactement, ce sont des one-shots.
Nicolas Cruson, je me retourne vers vous pour dire un petit mot quand même de la tournée coup de cœur qui a lieu en ce moment et qui s'arrête ce soir à Angers, au T-Rock. Le concept, c'est vous avez aimé des groupes et vous les faites tourner dans plusieurs régions. Ça va de Toulouse à Lille, à Paris, à Rennes, etc.
En passant par Angers, ouais.
Bien sûr.
Et oui, c'est une volonté des lieux. De faire à un moment donné de faire du repérage artistique, parce que ça fait partie de leur activité. C'est pas forcément leur métier principal, puisque c'est d'abord des débitants de boissons, mais vous savez, dans le réseau Culture Barbare, il y a plusieurs réseaux, et que aujourd'hui un bar, il peut prendre plein de formes. Il y a des bars de jour, il y a des bars de nuit, il y a des cafcons, et puis il y a aussi des clubs. Et que du coup, l'idée, c'était à travers de réunir un certain nombre de cafcons et de clubs qui aient envie de prendre en main la question du repérage artistique. Et donc, ils ont repéré des groupes, ils en ont discuté entre eux. Et cette année, ils en ont choisi un qui s'appelle Marquise, qui est un groupe... Nantais, qui fait une pop psyché, voilà, qui bosse pas mal sur clavier analogique et tout ça. et qui va tourner dans toute la France entre le 13 mai et le 31 mai. Voilà, on est soutenu par Pression Live, c'est coordonné par Culture Babar et c'est produit par par 10 lieux adhérents à la fédération. Et donc ça se passera ça se passait dans le nord, dans l'est, dans le sud-ouest et dans l'ouest.
Voilà. Est-ce que c'est la et petite sœur du festival Culture Barbare? Est-ce que c'est cette même visée? Comment?
Bah, je pense que Culture Barbare, c'est une fusée à plusieurs étages. Le premier étage de la fusée, c'était le festival. C'est, l'association est née de la volonté de patron de bar de faire 3 jours de festival, de 72 heures de musique non-stop voilà, en tournant dans la ville de Nantes. C'est parti. Aujourd'hui, en 2013, il y avait 220 bars qui participaient, plus de 50 villes. Angers, c'est quand même la 5e ville de France à suivre Culture Barbare. Je veux dire, ils étaient quand même 12 l'année dernière. On sent bien que c'est, on sent bien qu'à Angers, il y a un vrai dynamisme, ce qui est lié aussi aux personnalités qui sont en place, hein, bien entendu, et que du coup, cette l'opération coup de cœur, elle sera amenée à s'articuler à un moment donné, sans doute avec le festival, mais elle est complémentaire, c'est-à-dire que là, on est vraiment, on est sur un repérage artistique ciblé avec cette volonté de permettre le développement de groupes sur de la diffusion à l'interrégion, parce que souvent pour des groupes en développement, ils arrivent à se diffuser en région. Par contre, sortir de leur propre région, c'est souvent compliqué. Et on se dit que le réseau Culture Barbare, il peut peut-être amener une réponse à ces groupes-là. Voilà. Et c'est un peu le pari qu'on fait avec les lieux et nos partenaires.
Alors, la tournée coup de cœur, c'est donc ce soir au T-Rock. Un petit mot, peut-être, Jocelyn, pour présenter la soirée.
Il y a donc Marquise qui est passé il y a à peu près un an au T-Rock Coco. Et qui a eu l'occasion de jouer 2 fois sur Angers. Donc effectivement, c'est pop psyché et beaucoup de sons de clavier, très années 80, très dansant, très groovy. Et après, il y a Jean-Philippe, donc là, c'est pour le coup du rock made in Québec, et c'est un chant français. Et après, on enchaîne sur des DJ sets d'un collectif angevin qui s'appelle Solid Records, qui fait de la house et de la techno.
Et Jean-Yves Kerrer, nous, au Jokers, demain, il y a une affiche.
Oui, il y a 3 groupes, donc les 3 sont angevins en fait. Black Horse Parade, c'est du rock, hein. Les 3 sont du rock. Black Horse Parade, c'est pas facile à dire. Iris, et notre technicien son qui avait envie de sortir de ses boutons et d'aller sur scène, donc Goran, qui va faire pendant une demi-heure des reprises avec. C'est un super guitariste, donc ça risque d'être assez sympa.
C'est donc demain soir au Jokers. Merci à vous 4 d'avoir été dans le sous-marin. Et puis tout de suite, puisqu'on reste dans le thème, on écoute Marquise, Meet Major Tom. Écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers. Après avoir parlé des cafés-concerts ou cafés-culture, c'est selon, Rosemary Stanley et Dom Lanena font une escale dans le département demain et samedi pour présenter leur projet Birds on a Wire. Nous avons téléphoné à Rosemary Stanley, la voix de Moriarty. Bonjour Rosemary Stanley.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Campus Angers. Alors, pour vous présenter rapidement, on vous a découvert comme la voix de Moriarty. C'était en 2007 et c'était avec ça. Jimmy, won't you please come home? The grass is green. Moriarty, c'est un groupe qui est très marqué par son esthétique musicale, bien sûr, folk, blues, country, mais aussi son esthétique tout court dans les disques, sur scène. Ça fait du bien de s'extirper un peu du personnage de Rosemary Moriarty avec ce projet Birds on a Wire avec Dom Lanena.
Alors, on est effectivement très loin de l'esthétique de Moriarty, puisque c'est musicalement, c'est beaucoup plus minimal avec juste le violoncelle et les arrangements qu'on a fait avec Dom de certains morceaux. Mais bon, l'esprit reste quand même assez proche, ça reste quand même assez folk finalement. Une grande curiosité sur les répertoires abordés, je pense, qui vont vers des horizons très très différents et surtout qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis voilà.
Alors initialement, ce projet, il n'est pas forcément naturel, puisque vous ne connaissiez pas Dom Lanena, je crois, cette jeune violoncelliste brésilienne. Et c'est Madame Lune du festival parisien Les Rendez-vous de la Lune qui vous a présenté, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Comment s'est passée la rencontre avec Dom Lanena?
Bah, très bien, en fait. Moi, je l'avais vue sur scène plusieurs fois. Et puis, en fait, on a essayé une répétition. Et puis, ça a fonctionné tout de suite. Donc, ça a été finalement assez naturel très vite.
J'ai lu que vous aviez quelques a priori sur son jeune âge, non?
Non, en fait, je me demandais juste comment ça allait se passer, mais comme quand on connaît pas les gens et que on peut se demander comment ça va se passer, mais ça s'est passé très bien, en fait. J'ai pas vraiment d'a priori. Hein. Je trouvais qu'elle était justement assez culottée pour son âge.
Et finalement, voilà, ça fait plus d'un mois que l'album est sorti. Il a été très bien accueilli par la critique. On est dans un album complètement en dehors de toute temporalité. Vous le disiez tout à l'heure, c'est des chansons avec des univers différents. C'est un peu une bulle hors du temps. Ça vous a étonné, l'accueil critique?
Oui, ça nous a étonné parce qu'en fait, nous, on a travaillé pendant 8 mois, toutes les deux, enfermées dans une pièce, dans un appartement, et avec le sentiment que le répertoire nous appartenait vraiment à toutes les deux, puisqu'on a passé vraiment beaucoup de temps. Au bout d'un moment, on s'est vraiment approprié les morceaux, et quand on les a présentés pour la première fois en public, en fait, ça a été un grand étonnement de voir le succès que prenait ce répertoire, en fait. Et non, enfin, moi je suis toujours surprise, en fait, plutôt d'ailleurs agréablement surprise et contente. En fait, on est très contente, ça nous tombe un peu dessus.
J'imagine que ce duo violoncelle-voix, ça, on vous a déjà rapproché au duo Vincent Segal-Pierce Facchini, non, avec qui Dom Lanena a déjà travaillé?
Oui, alors moi je les ai jamais vus ensemble, Pierce et Vincent. Vincent Segal et Pierce Facchini, je les ai jamais vus ensemble, mais par contre, effectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez rare. Moi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, tester justement la voix avec des instruments qui sont pas forcément des instruments accompagnateurs, parce que le violoncelle c'est pas forcément un instrument qui accompagne au départ, c'est plutôt un instrument soliste, et qui a le même un peu la même tessiture que la voix, c'est un peu comme une deuxième voix. Et du coup, c'est à la fois ça laisse à la fois moins de possibilités et en même temps c'est pas comme une guitare quoi.
C'est
en même temps,
c'est un peu comme un trio finalement.
Oui, c'est un petit peu comme un trio, puisque Dom chante aussi, et du coup, c'est un peu comme si on avait trois voix.
Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu le choix des chansons de l'album ? Alors, vous passez de l'anglais à l'arabe à l'italien, vous chantez Tom Waits, John Lennon, vous reprenez Henri Purcell, une chanson réunionnaise aussi, c'est Gajaco. Comment est-ce que vous avez fait votre choix pour toutes ces chansons sur l'album ?
Bah en fait, il y a beaucoup de chansons d'enfance, beaucoup de chansons de référence, mais il y a aussi, quand on s'est rencontrés, on a un peu échangé des choses, c'est-à-dire que moi, sachant qu'elle était brésilienne, du coup, j'avais envie de mettre un morceau brésilien et j'avais pensé à Panis et Sixpence, par exemple, et puis ensuite, on a vu qu'il y en avait pas mal de répertoires en commun aussi, comme le Tom Waits, c'était une chanson, ça faisait partie de nos chansons préférées, quoi. Donc on avait très envie de le faire. Mais sinon c'est né un peu par hasard, c'est-à-dire que on a commencé à travailler quelques morceaux, puis on en a rajouté, et puis c'est des morceaux qui avaient rien à voir. On s'est dit tiens si on essayait ça, il y a plein de choses qui fonctionnaient tout de suite et d'autres qui marchaient pas, et du coup le répertoire s'est fait comme ça en fait, par élimination naturelle en fait.
Alors vous jouez vendredi de toutes les deux au Metz-sur-Sèvre et samedi à l'abbaye de Fontevraud. Vous, Rosemary Stanley, avec votre histoire avec Moriarty aussi, vous entretenez quel lien avec notre département, avec le coin ?
J'entretiens pas forcément un lien, il se trouve que juste on joue beaucoup dans cette région et que c'est assez amusant et plaisant de voir que les gens sont toujours là, qu'ils reviennent et qu'ils sont au rendez-vous quoi. Voilà, que malgré le fait qu'on soit venu si souvent, parce que c'est vrai qu'on est venu quand même assez souvent par les années passées, là ça faisait un petit moment, mais on est venu avec Moriarty il y a pas très longtemps, là je suis venue il y a un mois.
Pour les éclectiques.
Ouais.
C'est ça.
Voilà, et du coup, voilà. Je suis très contente de revenir, en plus il fait beau.
Alors justement, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de Moriarty ? Vous avez sorti fin 2013 l'album Fugitives, et vous êtes donc en tournée. C'est quoi la suite ? Vous menez les deux de front, alors, Birds on the Wire et Moriarty, là, en 2014 ?
Mais je dois même dire les trois, parce que j'ai un autre projet aussi qui est en voix, qui s'appelle Queen of Heart, qui tourne aussi également. Donc c'est vraiment trois projets qui tournent de manière simultanée.
Grosse année 2014 alors.
Voilà, grosse année 2014.
Rosemary Stanley, pour finir, sur Radio Campus Angers, on va écouter une des chansons de l'album, mais celle que vous préférez, c'est laquelle ?
Oh là, j'en ai pas.
laquelle on écoute alors ?
On peut écouter peut-être The Man Who Looked Like Me.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire avec cette chanson ?
En fait, c'est une chanson de mon père. Et il se trouve que c'était un peu par hasard, mais j'avais proposé à Dom qu'on fasse une de ses chansons, parce qu'il a quelques chansons que je trouve super. Enfin, il a plusieurs chansons, mais celle-là, j'aimais beaucoup. Et puis, il y en avait d'autres. Et en fait, ça s'y prêtait vraiment très, très bien avec le violoncelle. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Rosemary Stanley,
d'avoir
répondu à nos questions. Et puis, donc, on vous retrouve demain au Metz-sur-Sèvre et samedi à Fontevraud.
The bank is selling my property. The neighbor is buying the realty. A man got hired to get rid of me. See if you ride all along. My picture's on a wall, never post office hall. I'm not running for election or playing at the ball. The poster says there's a
Chaque jeudi soir dans le sous-marin, Rémi nous éduque en économie. Cette semaine, il est enregistré, il est dans la boîte.
Pleurons, mes amis. Pleurons face à ce chiffre effarant. 67 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Que d'injustice et d'inégalité dans ce bas monde. C'est scandaleux. Et que font les gouvernants? Comme d'habitude, rien du tout. Rien du tout.
Rien du tout.
Ah oui, hein, quel scandale! Il faudrait y remédier, bien sûr. Mais dès qu'on évoque les solutions à ce problème assez grave quand même, les mêmes Cassandres qui pleurent ces inégalités se braquent en disant qu'il ne faut rien changer. Ah oui, hein, il y a trop de pauvres, hein. Bah, augmentons le SMIC. Mais vous n'y pensez pas, et notre compétitivité? Et puis cet argent, ils vont mal le dépenser. Pensez donc, ils sont pauvres. Ces gens-là ne savent pas vivre. Ok. Mettons, en ignorant le fait, par exemple, que le surplus d'argent pourrait être utilisé à consommer local, ou bio, ou mieux, que ce soit pas bien d'augmenter les salaires. Mettons donc qu'une telle mesure ne soit pas appliquée. Pour diminuer les inégalités, on peut aussi s'attaquer aux riches, aux hauts des revenus. Bon, on va les taxer, et au même de revenir à la charge, mais vous n'y pensez pas, les riches vont tous s'en aller, ça ne s'est jamais fait, et les talents ne seront plus justement récompensés. En disant ça, on ignore juste un demi-siècle de l'histoire de la fiscalité.
Un cours d'histoire de la fiscalité.
Mais pourquoi elle n'est pas encore partie, celle-là? Revenons aux inégalités. Au XIXe siècle, en Europe, le moins que l'on puisse dire, c'est que les inégalités étaient criantes. Les 10% les plus riches possédaient 90% du patrimoine total. 50% du patrimoine était même détenu par le 1% le plus riche de la population. La Première Guerre mondiale fait des ravages. Il faut mettre tout le monde à contribution. Les plus riches voient donc le taux supérieur de l'impôt sur le revenu passer de moins de 10% au début du siècle à plus de 40% en 1920, dans la plupart des pays occidentaux. Puis vient la crise de 1929. Et là, c'est les pays anglo-saxons qui vont commencer à faire exploser la taxation de leurs plus riches contribuables. Au-delà d'un certain montant, les riches sont taxés à plus de 70% dès la moitié des années 30. Et pendant 40 ans, le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu dépasse 90% au Royaume-Uni. Au-delà d'une certaine somme, on vous prend 90%. Et ce, pendant 40 ans. Les pays anglo-saxons voulaient, à vrai dire, continuer à incarner un certain idéal méritocratique, pas comme ces Européens du continent et leurs très riches qui héritent tout. Nous, on se contente de ce que l'on a obtenu à la sueur de notre front. Mais avec la même vigueur, cette idée s'est complètement retournée dans les années 1980. Allez hop, l'État, c'est le problème. On détaxe. Et pfff. Les taux dégringolent. Le taux supérieur de l'impôt sur le revenu passe à moins de 30% aux États-Unis en quelques années. Et c'est la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Bon, j'ai parlé des pays anglo-saxons. Mais bon, la France n'a pas rien fait pendant ce temps-là. À partir d'un certain niveau de revenus, on a taxé nos plus riches à plus de 60% pendant là aussi 40 ans. Pour note, on les taxe aujourd'hui à 45%. Ce qui est assez marrant, c'est que ce sont les États-Unis qui ont la tradition de l'égalité la plus marquée dans leur histoire, alors qu'ils sont actuellement un des pays les plus inégalitaires au monde. C'est vraiment l'Amérique, quoi. Si on taxe davantage les riches, on les taxe comme jamais, et si on les taxe moins, alors on les taxe quasiment plus. En France, nous, on est plus pépère, on suit le mouvement. On doit taxer plus dans les années 20, on taxe plus. Et puis dans les années 80, il faut moins taxer, donc on taxe moins. On suit la tendance, nous, on est vraiment tranquille. Tout ça, je l'ai appris dans le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, qui fait un véritable tabac aux États-Unis. Rue 89 titrait, à propos de l'auteur qui avait suggéré l'idée de la révolution fiscale au PS en 2011, « Hollande l'a ignoré, l'Amérique l'a adoubé. Des prix Nobel lui tressent des lauriers. Et moi donc, qui suis un futur prix Nobel, tout le monde le sait, arrêtez de rire dans ce studio, bande de nuls, eh bien je l'adore. Je ne peux que vous recommander de vous ajouter aux 300 000 lecteurs qui, à travers le monde, l'ont déjà dévoré. Vous avez détesté ma chronique? C'est plus clair dans le bouquin, je vous jure. Vous avez aimé ma chronique? Deux personnes répondent oui par politesse. Vous allez vous agenouiller devant les 950 pages d'un bouquin à la lecture qui prend certes du temps, mais qui est si fluide que l'on regrette de ne pas avoir plus de temps pour le dévorer. L'analyse fine et détaillée de deux siècles d'évolution de l'importance du capital et des inégalités dans plus de 15 pays, j'ai nommé le capital au XXIe siècle.
Merci Rémi, j'ai tout compris. Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers et on va bientôt débrancher les hydrophones. Mais avant, voilà l'agenda de votre soirée angevine. Ce soir, au twist vernissage de l'expo Clair Obscur. Je note aussi que l'association Graines en Vie, une association étudiante à but humanitaire, organise une soirée au snooker à 20h avec pour thème déguisement. Si, si, déguisement. À 20h, et c'est dans le thème du sous-marin de ce soir, soirée slam au bar du quai avec Poison d'Avril, aux 4 sans coup projection de Jimmy Rivière, à 20h15, suivi d'une rencontre avec Teddy Lucie Modeste, le réalisateur. Au quai, à 20h30, retrouvez la création de Nathalie Béas, Tout semblait immobile. À l'Étincelle, à 20h30 aussi, concert de Pervers et Truand, du punk venu de Saint-Étienne, et Tanya Turner, Electronoise Angevin. Marquise et Jean-Philippe seront donc au Terroir Coco à 21h, suivi d'un DJ set dans le cadre de la tournée nationale du collectif Culture Barbare. Et puis, Boom Tchak au Jacaré à 22h. Et Radio Campus Angers vous fait gagner 3 fois 2 places pour le concert d'Angelo de Bar au quai demain soir dans le cadre du festival Gypsy Swing. Je vous rappelle la question, combien font 100 plus 3 ? Combien font 100 plus 3 ? Envoyez votre réponse à communication@radiocampusangers.com, sans oublier vos coordonnées, bien sûr. Voilà, là, il est vraiment l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com ou en rediff demain dès 13h sur nos ondes. On vous laisse avec la bulle sonore. Johnny Clash est tous les mardis soirs en live à 21h sur le 103 FM. Et mardi dernier, le Johnny Clash Show s'est transformé en Paul Ramon Show. La totalité du programme est bien sûr à réécouter en intégralité sur notre site web. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. On se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Johnny Clash, toujours en direct de New York. Et si vous vous souvenez du dernier épisode, vous connaissez la bonne nouvelle. J'ai retrouvé mon co-animateur Paul Ramon. Mais vous connaissez aussi la mauvaise nouvelle. Paul Ramon est parti bosser sur Radio Campus New York et m'a piqué toutes mes idées, cet enfoiré. Si vous me croyez pas, on va profiter de l'émission de ce soir pour écouter son émission de ce soir. Ouais, on va profiter du Johnny Clash Show pour écouter le Paul Ramon Show. Vous écoutez Radio Campus New York, il est bientôt 22h, c'est l'heure de retrouver le Paul Ramon Show, l'heure de me retrouver en solo avec le meilleur de la musique américaine. Ouvrez grandes vos oreilles, kiddo, restez à l'écoute du Paul Ramon Show. Howdy, you're listening to Paul Ramon, guys. Get ready. Oh, fuck. On va la faire en français. Pas grave si vous me comprenez pas, amis new-yorkais, car ici, c'est la musique qui parle. Et la musique, elle sera américaine ou elle ne sera pas. C'était déjà le cas à l'époque où je jouais les seconds couteaux sur Campus Angers, mais là, ce sera encore mieux, promis. Il y aura toutes les rubriques habituelles, l'anecdote de Paul, le téléphone de Paul, la surprise de Paul, il y aura du Paul de 21h à 22h, du Paul pour tout le monde. Et comme chaque semaine, on débute avec le Paul de la semaine. À qui le tour ? Paul McCartney ? Paul Anka ? Sean Paul ? Non, c'est l'ami Paul Simon.
Yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.